ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Marie Schaeffer, donc, qui vient faire une conférence sur l'esthétique. Je vous présente donc Jean-Marie Schaeffer. Jean-Marie Schaeffer est philosophe. Il est né en 1952. Il est directeur de recherche au CNRS. Il est lié à l'École des hautes études en sciences sociales. Et il a enseigné à l'Université de Kyoto en 1990. Il a été chercheur invité à Princeton en 1993. Et il a publié de nombreux ouvrages sur l'art. C'est ce qui nous a amené à l'inviter, puisque ce module s'intitule « Les arts et les cultures ». Et donc je vous rappelle brièvement les titres. « L'image précaire » paru aux éditions du Seuil en 1987. « L'art de l'âge moderne » paru chez Gallimard en 1992. « Qu'est-ce qu'un genre littéraire » paru au Seuil en 1989. « Les célibataires de l'art » paru chez Gallimard en 1996. « Pourquoi la fiction » paru au Seuil en 1999 et « Adieu à l'esthétique » paru au PUF cette année. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée.
Bon, merci beaucoup. J'espère que je ne serai pas un cadeau empoisonné. Alors, le sujet de ma conférence est ce qu'on appelle couramment la relation esthétique. Et je vous la présenterai dans le cadre de ce qu'on considère généralement comme la philosophie de l'esprit. Je dois préciser qu'il s'agit en l'occurrence d'une philosophie de l'esprit naturalisée, c'est-à-dire, pour le dire plus simplement, une philosophie de l'esprit qui considère que l'esprit humain, avec toutes ses caractéristiques, et notamment avec la conscience et ses aptitudes cognitives et ses normes de conduite, s'inscrit dans la continuité d'une histoire qui est celle de l'évolution du vivant sur la planète Terre. Autrement dit, c'est une philosophie de l'esprit pour laquelle l'esprit lui-même est une caractéristique biologique de l'espèce humaine. C'est ce qu'on désigne en général par le terme de naturalisation. Je dois préciser immédiatement, pour être honnête, que ce programme est loin d'être accepté par tous les philosophes. Beaucoup considèrent que le programme naturaliste comme tel a été définitivement réfuté par la phénoménologie de Husserl, donc que le reprendre, c'est tout simplement faire de la mauvaise philosophie. D'autres, plus radicaux, considèrent qu'il équivaut en fait à une négation de la philosophie comme tel. Je vous laisserai le choix quant à ce que vous penserez de ce que j'aurai à vous dire. De toute manière, c'est dans ce cadre-là que j'aimerais vous parler de la relation esthétique. Cela signifie que ce qui m'intéressera surtout, ce sera cette relation esthétique en tant qu'elle se réalise comme une conduite humaine. Et pour étudier une conduite humaine, on a besoin tout autant des savoirs de la psychologie cognitive, de l'éthologie, de l'étude comparée des cultures, de l'histoire, de l'ethnologie et de bien d'autres, que des travaux proprement philosophiques. Donc ce sera une approche fera référence à des connaissances venant d'horizons divers. Je parlerai en fait de trois petits sous-problèmes dans ce très vaste problème. Le premier problème, c'est que j'essayerai d'exposer ce qui fait la caractéristique principale d'une conduite esthétique. En un deuxième moment, j'essayerai de vous convaincre que nous avons intérêt à distinguer entre ce qui relève de l'esthétique et ce qui relève de l'artistique. Et enfin, en un troisième moment, j'aborderai de manière un peu cavalière le problème des relations entre ce qui, dans les conduites esthétiques, relève d'un élément universel, anthropologique, et ce qui, au contraire, est culturellement relatif. Alors, la première question, qu'est-ce qu'une conduite esthétique ? Je crois que la difficulté pour répondre à cette question est liée en partie au fait qu'une expression comme expérience esthétique ou des expressions du même genre mobilise chez chacun d'entre nous des représentations à la fois très précises, mais aussi très sélectives et donc très diverses d'une personne à l'autre. Or, cette diversité est sans doute due à de multiples causes ou de multiples raisons, parmi lesquels, dans le désordre, notre histoire personnelle, notre niveau de scolarisation, la culture, bien sûr, à laquelle nous appartenons, peut-être même le moment de la journée où on nous pose la question, notre classe d'âge, est-ce que nous sommes jeunes ou moins jeunes, nos autres occupations ou soucis, le milieu social qui a été beaucoup étudié, et ainsi de suite. Donc tout cela fait qu'il est très difficile de partir d'une compréhension partagée de la notion. Pourtant, cela est indispensable si on ne veut pas se perdre d'entrée de jeu dans des malentendus sans fin. L'expérience, enfin le peu d'expérience que j'ai, m'a appris que pour fixer un horizon de référence commun, fût-il provisoire, le mieux est de donner quelques exemples. Je partirai donc de deux situations qui, pour moi, correspondent à des expériences esthétiques canoniques. Le premier exemple, je le prends chez Stendhal, lorsqu'il énumère ce qu'il appelle ses premiers plaisirs musicaux. Alors, j'énumère son énumération. Premièrement, le son des cloches de Saint-André, surtout sonnant pour les élections une année que mon cousin Abraham Malin était président ou simplement électeur. Deuxièmement, le bruit de la pompe de la place Grenette quand les servantes, le soir, pompaient avec la grande barre de fer. Troisièmement, enfin, mais loin de tous, le bruit d'une flûte que quelques commis marchands jouaient à un quatrième étage de la Grenette. Fin de citation. Je retiendrai quatre points ou quatre aspects de ce passage. La première remarque importante, c'est l'intervention de la notion de plaisir, puisque Stendhal parle de ses premiers plaisirs musicaux. Or, je crois que lorsqu'on parle de relations esthétiques, la notion de plaisir est toujours présente, ou de déplaisir, bien entendu. Le deuxième point, c'est que dans les exemples de Stendhal, il apparaît qu'il y a un lien indissoluble entre les émotions esthétiques et son histoire personnelle. En cela, son protocole d'expérience, si l'on peut dire, contraste singulièrement avec la définition philosophique classique, c'est-à-dire celle de Kant, qui insiste au contraire sur la nécessité pour l'expérience esthétique, du moins si elle veut être pure, de s'émanciper de ce qui relève de nos idiosyncrasies, de notre personne empirique propre. Un troisième point qui me semble intéressant, c'est que Stendhal, dans ce passage, loin d'opposer l'art, en l'occurrence la musique pratiquée par un amateur, aux constellations perceptives de la vie de tous les jours, comme le bruit de la fontaine, souligne leur continuité. Ce faisant, il nous fait toucher du doigt que ce qui importe pour définir une conduite esthétique, ce n'est pas l'objet, mais l'attitude qu'on adopte face à cet objet. Donc, il peut s'agir d'une œuvre d'art, bien entendu, mais il peut s'agir aussi d'autre chose. Ce qui est déterminant pour la conduite esthétique n'est pas une caractéristique de l'objet, mais quelque chose qui définit notre attitude face à cet objet. Enfin, quatrième point, c'est que son témoignage nous rappelle opportunément que la vie de tous les jours, notre vie de tous les jours, est une source permanente de moments d'attention esthétique. Ce qui suggère ou laisse supposer que l'attention esthétique est une composante de base du répertoire mental humain. C'est un point sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Je prendrai maintenant un deuxième exemple que j'ai cité dans un autre de mes livres déjà et que je reprends tout simplement parce que c'est un texte qui me plaît beaucoup. C'est un texte extrait d'un livre japonais du 10e siècle, enfin du l'an 1000 à peu près, qui s'appelle « Les notes de chevet » dues à Sei Shonagon. Alors, je cite ce petit passage. « Un jour du 9e mois, la pluie qui avait tombé toute la nuit cessa quand vint l'aurore. Quel ravissant tableau! Sous les rayons éclatants du soleil matinal, les chrysanthèmes du jardin, devant la maison, laissaient couler goutte à goutte la rosée dont ils étaient mouillés. Sur les clôtures à claire-voie, sur les rameaux entrelacés, sur les tiges dériantes, je voyais en lambeaux des toiles d'araignées. Ça et là, au fil rompu, étaient suspendues des gouttes de pluie qui semblaient des perles blanches enfilées. Je me sentais, en admirant cela, délicieusement triste. Quand le soleil fut un peu haut dans le ciel, comme la rosée qui avait fait paraître les laspédèses si lourdes était tombée, les rameaux se mirent à remuer, puis se redressèrent tout à coup, sans qu'aucune main les eût touchés. Plus tard, je dis à d'autres personnes combien j'avais été charmé. Mais le curieux, c'est que certaines gens puissent penser que la rosée n'est pas jolie. Je me bornerai à trois remarques ici. La première, c'est que comme Stendhal, Sei Shonagon insiste sur le plaisir. Mais elle nous montre aussi que le plaisir en question n'est pas incompatible avec un sentiment de tristesse. Ce qui pose évidemment le problème de savoir en quoi réside, de manière plus précise, le plaisir esthétique, si par ailleurs il doit être compatible avec une gamme très diversifiée de sentiments qui peuvent aller jusqu'au tragique. Le deuxième point, c'est que comme il s'agit d'un texte un peu plus développé que les notes sténographiques, un peu de Stendhal, il nous montre que l'expérience esthétique passe ou implique une exacerbation de l'attention, ici de l'attention visuelle. Cette absorption dans et par l'objet, cette attention accordée aux détails, ces rêveries analogiques et métaphoriques qui prolongent l'attention perceptive sont parmi les traits les plus immédiatement reconnaissables des conduites esthétiques. Enfin, la phrase finale, qui dit « Mais le curieux, c'est que certaines gens puissent penser que la rosée n'est pas jolie », nous rappelle que souvent, ce qui nous apparaît comme étant une expérience esthétique extrêmement enrichissante ne provoque pas nécessairement la même réaction chez d'autres personnes. Ce qui nous renvoie bien entendu à la question ardemment débattue et jamais résolue du jugement esthétique et plus précisément du fondement ou de sa source. À première vue, ces deux expériences paraissent fort différentes l'une de l'autre. Encore ne s'agit-il pas d'un échantillon représentatif. En réalité, pour essayer de comprendre l'effet esthétique dans une perspective anthropologique, disons, il faut rechercher ce qu'il peut y avoir de commun entre, par exemple, un enfant qui est passionné par un dessin animé qu'il regarde à la télé, un insomniaque qui trouve le repos en écoutant le chant matinal des oiseaux ou le bruit d'un train qui file à travers la plaine, un amateur d'art qui est enthousiasmé ou déçu par une exposition consacrée à Vermeer ou à Joseph Beuys, un lecteur ou une lectrice plongée dans un roman, un courtisan de l'époque du roi Soleil qui assiste à une représentation de Phèdre, des villageois qui sont assis en cercle autour d'un aède grec ou d'un griot africain, un amateur de musique qui assiste à un concert de musique classique, mais tout aussi bien de rock ou de jazz, des touristes admirant le Grand Canyon ou, pourquoi pas, les gorges de l'Ardèche, un maître de thé qui soupèse et qui scrute un bol à thé après avoir avalé son contenu, et ainsi de suite. Chacun peut ajouter des exemples autant qu'il veut. Pourtant, cette diversité n'est peut-être que de surface. Elle recouvre sans doute une attitude, ou mieux, une activité mentale qui, elle, demeure la même, quelle que soit la diversité des conditions existentielles, sociales, culturelles ou historiques qui infléchissent les pratiques. Elle demeure peut-être aussi la même, quel que soit l'objet concerné, qu'il s'agisse d'une œuvre faite de main d'homme ou d'une rencontre esthétique avec le monde environnant humain ou non humain d'ailleurs. En fait, quand on regarde bien les exemples, il n'est pas trop difficile de dégager les traits communs à toutes ces situations. Il me semble qu'elles sont de l'ordre de deux. En premier lieu, toutes les conduites que j'ai énumérées sont des activités de discrimination, de discernement. Stendhal se souvient de certains stimuli sonores. L'amateur de musique suit une ligne mélodique, décompose et recompose des figures harmoniques, dessine mentalement la structure d'un contrepoint, ou encore découvre les sinuosités d'une improvisation. Seishonagon construit une sorte de tableau ou de film mental de ce qu'elle voit en même temps. Le lecteur de roman s'immerge dans l'univers imaginaire encodé par le texte fictionnel. Un amateur de parfum ou d'encens décompose et recompose la senteur complexe du parfum qu'il apprécie ou du mélange d'encens qu'il a devant lui, et ainsi de suite. Toutes ces activités, regardées, écouter, palper, sentir et bien sûr aussi goûter sont autant de modalités cognitives grâce auxquelles nous prenons connaissance du monde environnant. Le premier trait distinctif de la conduite esthétique me semble donc résider dans le fait qu'il s'agit d'une expérience cognitive, l'adjectif cognitif étant pris ici au sens large du terme, c'est-à-dire au sens où le cognitif est coextensif à l'attention que nous apportons au monde dans lequel nous vivons. La fonction originaire, et si l'on veut canonique, de la relation cognitive ne réside évidemment pas dans leur usage, dans son usage esthétique, mais dans le fait qu'elle nous permet de nous orienter dans l'environnement physique et humain dans lequel nous sommes obligés de vivre et de survivre. D'ailleurs, même le fait de contempler un tableau ou d'écouter une pièce de musique ne s'inscrit pas nécessairement dans le cadre fonctionnel d'une conduite esthétique. Le tableau peut remplir une simple fonction de transmission d'informations, une fonction rituelle ou encore une fonction magique. L'écoute de la pièce de musique peut faire partie d'un test de contrôle de solfège. Bref, si le fait qu'une activité humaine soit une activité cognitive est sans doute une cause nécessaire pour qu'il puisse y avoir une conduite esthétique, ce n'est pas une cause suffisante. Le deuxième trait est celui qui nous livre la condition spécifique que l'activité de discernement doit remplir pour être de nature esthétique, c'est que cette activité cognitive est chargée affectivement, au sens où elle est valorisée pour la satisfaction qu'elle est capable de provoquer chez celui qui s'y adonne. Autrement dit, pour qu'une activité d'attention relève d'une conduite esthétique, il faut qu'elle soit accompagnée d'une satisfaction qui est prise à cette activité cognitive elle-même. Autrement dit, c'est l'attention en elle-même qui doit être satisfaisante, quels que soient par ailleurs les sentiments qui sont provoqués par l'objet sur lequel porte cette attention. Cela explique pourquoi Seisho Nagon, mais n'importe qui d'autre aussi, peut vivre une expérience satisfaisante alors même que la contemplation de la rosée provoque en elle un sentiment de tristesse. La satisfaction est provoquée par l'activité qu'elle exerce, la tristesse est provoquée par l'objet qui est construit à travers cette activité. J'ai dit tout le temps satisfaction esthétique, mais bien entendu l'appréciation peut aussi être négative, c'est-à-dire qu'il peut s'agir d'une expérience de dissatisfaction, de non-satisfaction ou de déplaisir. J'insiste un peu sur ce point parce que dans le domaine des œuvres d'art, les expériences esthétiques déplaisantes sont souvent vécues comme des faits qui, en toute justice, ne devraient pas exister. Cela est dû au fait que nous avons tendance à doter la notion d'œuvre d'art d'une valeur intrinsèquement positive, ce qui nous amène parfois à dire qu'une œuvre mauvaise n'est en fait pas une œuvre d'art. Donc nous avons tendance à l'exclure du domaine des œuvres. La raison en est peut-être que, dans le cas d'une œuvre d'art, l'adoption de l'attitude ou de la posture esthétique est sollicitée par le fait que nous supposons, ou parce qu'on nous fait supposer, que cette œuvre a été créée afin de donner lieu à une activité satisfaisante de ce type-là. Dans les situations esthétiques qui relèvent de la transformation de simples stimuli intramondains en objets esthétiques, de telles réactions de dépit sont sans doute plus rares. C'est tout simplement parce qu'ici, la construction du donné perceptif en objet esthétique incombe totalement à celui qui s'engage dans cette conduite. En sorte que si l'activité cognitive est non satisfaisante, il est difficile pour lui de s'en prendre à quelqu'un d'autre. Par ailleurs, la manière dont nous adoptons une conduite esthétique face à une constellation perceptive se fait souvent de manière spontanée. C'est en réalité en faisant l'expérience d'une disposition affective, positive ou négative, face à ce que nous voyons, à ce que nous entendons, que nous découvrons que nous avons glissé, sans nous en rendre compte, dans l'attitude esthétique. D'ailleurs, nous en sortons en général tout aussi facilement et silencieusement que nous y sommes entrés, puisque l'objet ne nous sollicite pas en tant que destiné à la contemplation esthétique plutôt qu'à autre usage. Il va de soi que selon les objets qui causent la satisfaction, elle peut se présenter sous des formes et des modalités diverses. Il est tout aussi certain que ces tonalités dépendent des tempéraments individuels, des cadres sociaux et culturels. Mais il me semble que pour qu'on puisse parler d'une conduite esthétique, il faut que ce plaisir ou cette absence de plaisir, voire ce déplaisir, soit le régulateur de l'activité de discernement, et il faut aussi que la source de ce plaisir ou de ce déplaisir réside dans une activité d'attention cognitive. En quelque sorte, la relation esthétique naît du croisement de ces deux faits. Voilà, je passe à mon deuxième point en essayant de plaider pour la nécessité de distinguer entre ce qui relève de l'appréciation et de ce qui relève de l'artistique et ce qui relève de l'esthétique. Vous aurez remarqué, je le dis simplement vite en passant, que en parlant de la relation esthétique, je n'ai pas parlé du jugement de goût. Pour deux raisons. La première raison est que je considère que le jugement de goût est une conséquence de l'expérience esthétique plutôt qu'une composante qui en fait partie, je dirais, de manière structurelle. La deuxième raison est plus contextuelle, je dirais, c'est-à-dire c'est un domaine où les polémiques font rage et pour lequel, si on s'y engage, il faut au moins y passer une demi-heure, et ce qui n'est évidemment pas le temps qui est à ma disposition ce soir. Donc, je me bornerai simplement, en ce qui concerne le jugement de goût, à vous laisser méditer l'exclamation de Sei Shonagon que j'avais citée, mais le curieux, c'est que certaines personnes puissent penser que la rosée n'est pas jolie. Et oui, c'est curieux, mais c'est ainsi. Donc, l'esthétique et l'artistique. Les exemples que j'ai donnés portaient indifféremment sur des œuvres d'art et sur des constellations perceptives ou sur des objets ou des situations quelconques de la vie de tous les jours. Cela implique que l'esthétique ne saurait évidemment coïncider avec ce que désigne le terme artistique. Et je pense qu'il y a en fait au moins trois raisons importantes qui font que nous aurions intérêt vraiment à distinguer le domaine de l'expérience esthétique de la problématique artistique. La première raison, c'est que, comme on l'avait déjà bien vu au XVIIIe siècle, et comme le montrent aussi les exemples que j'ai donnés, la relation esthétique n'est pas une relation qui s'adresserait uniquement à des œuvres d'art. Il ne faut jamais perdre de vue le fait que les êtres humains ont la possibilité de se rapporter esthétiquement non seulement à des artefacts, mais plus globalement au monde dans lequel ils vivent, par exemple au corps de leurs congénères, au monde animal, aux plantes, et plus largement à n'importe quel ensemble de stimuli perceptifs, à n'importe quel ensemble d'imagination ou de construction conceptuelle même. La deuxième raison, qui est sans doute plus importante parce qu'elle donne lieu à beaucoup de malentendus, c'est que la création artistique ne s'inscrit pas toujours dans une fonction esthétique. De nombreux artefacts humains, que pour des raisons de parenté génétique, c'est-à-dire de parenté dans la manière dont cet objet a été produit, ou d'appartenance générique, c'est-à-dire de rassemblance de formes, par exemple. Donc, de nombreux artefacts humains que, pour ces raisons, nous classons parmi les œuvres d'art, n'ont pas ou n'ont pas eu, dans leur contexte natif, une fonction sociale d'ordre esthétique. Les masques tels ceux qu'on peut voir maintenant au Louvre, par exemple, n'ont en général pas été créés dans l'intention de servir de support à une contemplation esthétique. Mais ils étaient censés remplir une fonction rituelle bien précise, c'est-à-dire servir de support à l'incarnation d'esprit. Pourtant, malgré cette absence de fonction esthétique, il n'y a guère de doute qu'au niveau générique, la ressemblance des formes, et au niveau génétique, c'est-à-dire les aptitudes qu'il faut mettre en œuvre pour produire ce genre d'objet, ces masques s'inscrivent parfaitement dans la classe des sculptures. Donc, dans une des classes canoniques de ce que nous appelons généralement des œuvres d'art. Cela dit, le fait que des formes d'art, par exemple la sculpture, qui chez nous ont une fonction esthétique, n'aient peut-être pas une telle fonction dans telle autre culture, n'implique pas automatiquement que cette culture ne connaisse pas la fonction esthétique. Il se peut tout aussi bien, et c'est peut-être même plus probable, qu'elle investisse cette conduite esthétique dans d'autres objets ou dans d'autres classes d'événements. Donc, il faut bien dissocier l'existence ou la question de l'existence de conduite esthétique à telle ou telle époque ou dans telle ou telle culture de celle de la fonction que cette même époque ou cette même culture accorde aux œuvres d'art. La troisième raison est peut-être à la fois la plus évidente et la plus fondamentale, c'est que tout simplement la création artistique et l'activité de réception qu'est l'attitude esthétique correspondent à des processus mentaux très différents. L'activité intentionnelle qui consiste à créer quelque chose et l'activité mentale qui consiste à prêter attention à quelque chose sont deux activités irréductibles l'une à l'autre. Elles mettent en œuvre des ressources et des intentionnalités différentes et il est probable qu'elles mobilisent des catégorisations différentes. On peut certes décider qu'on va garder le terme esthétique comme terme englobant qui désigne à la fois le faire artistique et l'attention, mais dans ce cas, il faut bien proposer un autre terme susceptibles de rendre compte de leurs différences. Il faut ajouter cependant que la nécessité de distinguer entre l'artistique et l'esthétique n'implique nullement qu'il faille exclure la dimension esthétique de la création artistique. Simplement, il faut faire la part des choses entre ce qui, dans cette création, relève du faire et des problèmes qui se posent à ce faire, et ce qui relève de l'attention que celui qui fait accorde à ce qu'il fait. Et donc de l'attitude esthétique qu'il adopte à l'égard de sa propre œuvre en train de se faire. Ainsi, le geste pictural du peintre relève du faire artistique, mais le contrôle qu'il exerce sur son propre travail, par exemple en s'éloignant, en jetant un regard pour voir si ça marche ou si ça cloche, relève sans doute de l'attitude esthétique, puisqu'il va jauger ou juger son travail par rapport au caractère satisfaisant ou non de cette inspection visuelle. Donc, la distinction entre l'artistique et l'esthétique est une distinction analytique, mais n'implique aucunement qu'il n'y ait pas de relation entre ces deux conduites humaines. Le troisième et dernier point que j'aimerais aborder, c'est sans doute le plus difficile d'une certaine manière, puisque c'est la question de l'universalité ou de la relativité culturelle des conduites esthétiques. Dans le domaine de la philosophie ou de la tradition philosophique, nous avons parfois tendance à considérer que, comme l'esthétique en tant que discipline philosophique est née au XVIIIe siècle, l'esthétique conçue comme conduite humaine, elle aussi, a vu le jour pendant ce siècle-là. Autrement dit, la conduite esthétique ou l'attitude esthétique serait quelque chose qui serait intimement lié à l'histoire de la modernité occidentale. Les exemples que j'ai donnés voulaient montrer qu'en fait, il n'en était rien et donc qu'il fallait distinguer entre la naissance de la discipline qui se donne comme objet l'étude d'un certain type de conduite ou d'un certain type de fait, et puis ces faits eux-mêmes. Autrement dit, le fait que l'esthétique philosophique soit née au XVIIIe siècle n'implique nullement qu'avant cette date, les gens ne se soient jamais adonnés à des conduites esthétiques. C'est pour cette raison que les exemples que j'ai donnés proviennent d'époques historiques et d'aires culturelles très différentes. Cela dit, l'existence d'une même conduite dans différentes cultures ne nous apprend pas encore à quoi est due cette existence transculturelle ou transhistorique. J'ai dit que c'était une question difficile et elle est sans doute rendue d'autant plus difficile que nous avons tendance à y répondre à l'aide d'oppositions un peu manichéennes, telles l'opposition gène contre environnement, ou nature contre culture, ou encore universalité anthropologique contre singularité culturelle. Je n'entrerai bien entendu pas dans la discussion de l'opposition gène contre environnement qui dépasse mes compétences. Je me bornerai à une seule remarque qui est liée au champ esthétique. Lorsque les éthologues, par exemple, font l'hypothèse selon laquelle les conduites esthétiques ont une base génétique, cela signifie qu'ils pensent que c'est le bagage génétique qui constitue la condition nécessaire pour que de telles activités puissent se développer. Cela ne signifie pas qu'ils pensent que ce bagage constitue la condition suffisante. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une question où il faudrait choisir un pôle et nier la pertinence de l'autre. Le véritable problème est plutôt de comment mettre en relation ces deux pôles et essayer de comprendre comment une base biologique commune peut se différencier après culturellement. La deuxième opposition, celle entre nature et culture, possède évidemment une présence obsédante dans la civilisation occidentale. Je ne suis pas sûr qu'elle soit vraiment pertinente. Il me semble que le fait d'élaborer ce que nous appelons des cultures est un trait de la nature biologique de l'homme. C'est même un des traits les plus caractéristiques de notre espèce. Il ne me paraît donc pas juste de dire qu'à travers la culture, l'homme s'émancipe de sa nature biologique. Je pense qu'on devrait dire beaucoup plus simplement que c'est à travers la culture qu'il réalise ce qui, sans doute, est sa spécificité biologique la plus marquée comparée aux autres espèces. Resterait donc la troisième question, celle de savoir si l'expérience esthétique est un universel anthropologique ou un événement culturel singulier. Toute l'hypothèse que j'ai développée devant vous est évidemment que la conduite esthétique possède un ancrage anthropologique. Pour tester cette hypothèse, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire une étude exhaustive de toutes les cultures actuelles et passées, ce qui serait de toute façon impossible. Il me semble que pour qu'une telle hypothèse puisse être envisagée sérieusement, ce qui ne veut pas dire qu'elle est prouvée, mais envisagée sérieusement, il suffit de montrer, et cela a été fait depuis longtemps et je crois n'est remis en question par aucune personne sensée, que dans de nombreuses sociétés très différentes les unes des autres et qui se sont développées indépendamment des unes des autres, les êtres humains nous ont laissé des témoignages du fait qu'ils se sont adonnés à des conduites que nous, en Occident aujourd'hui, nous appelons des conduites esthétiques. Mais une chose est de formuler l'hypothèse que la conduite esthétique trouve sa source dans une disposition mentale plus générale, et à laquelle se superposent ensuite des apprentissages culturels différenciés. Une autre est de comprendre quel est le statut de cette disposition mentale générale et comment elle se particularise, dès lors qu'elle est cultivée consciemment par des communautés humaines. Il me semble que pour étudier cette question, il faut prendre en compte au moins trois facteurs. D'abord, l'hypothèse de l'existence d'un ancrage génétique. En deuxième lieu, l'hypothèse centrale, et qui a été soulignée depuis très longtemps, de ce qu'on appelle la transition exosomatique, et plus banalement de la transmission culturelle, et donc de l'imprégnation historique. Enfin, un troisième facteur, qui est l'existence probable d'analogies évolutives. Il me semble que ces trois facteurs causaux se conjuguent dans beaucoup d'activités culturelles et sont susceptibles d'expliquer à la fois leur parenté transhistorique et transculturelle, tout autant que leur différenciation. Parmi les faits culturels qui possèdent un ancrage génétique très fort, les mieux étudiés sont les faits linguistiques. Si on en croit les recherches actuelles, le fait que tous les hommes parlent est dû à l'existence d'une compétence linguistique ancrée et transmise génétiquement. Et cette compétence est universelle au sens où n'importe quel bébé peut apprendre n'importe quelle langue à condition qu'il se trouve dans le bain linguistique pertinent au moment de l'activation endogène de ce que Steven Pinker appelle de manière sans doute un peu provocatrice l'instinct de langage. Bon, les filiations historiques, quant à elles, sont opératoires dans toutes les évolutions culturelles. Et elles sont en général un facteur à la fois de cohésion et de différenciation. Et pour en rester dans le domaine du langage, par exemple, les parentés entre langues romanes, s'expliquent évidemment par filiation historique. Elles sont dues à une dérive progressive d'une même langue d'origine qui est le latin. L'origine historique commune est donc la cause de leur parenté, et la dérive historique explique leur dissemblance. Le troisième facteur, les analogies évolutives, ce sont des ressemblances qui ne sont fondées donc ni sur une transmission génétique commune, ni sur une transmission historique, mais qui sont dues au fait qu'une communauté humaine se trouve confrontée à des contraintes du même type. Bon, de telles analogies existent évidemment au niveau des traits biologiques organiques, notamment entre différentes espèces. Mais on peut aussi penser qu'il en existe au niveau des traits culturels. Et je resterai toujours à l'exemple des langues. Le fait que toutes les langues connaissent en gros les mêmes fonctions pragmatiques, les mêmes actes de langage, comme on dit, par exemple des actes déclaratifs, interrogatifs et des actes expressifs, est peut-être une analogie évolutive, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un ensemble de développements indépendants qui ont été causés par des contraintes similaires, à savoir le besoin qu'a toute communauté humaine de partager des informations sur ce qui est, ce qui donne les phrases descriptives et interrogatives, de développer des échanges intraspécifiques de nature affective, propositions expressives, de stabiliser les rapports hiérarchiques internes au groupe, les ordres, et ainsi de suite. De même, le fait que des peuples vivant dans un environnement naturel et artificiel comparable et ayant un mode de subsistance lui aussi comparable développent des découpages sémantiques apparentés est une analogie évolutive. Les similarités dans la pression du milieu et des moyens de subsistance provoquent en l'occurrence des similarités de prégnance herméneutique des divers éléments du monde dans lequel vivent les gens. Si l'analyse de la relation esthétique que j'ai tenté d'esquisser ici est correcte, ces trois types de facteurs devraient aussi s'y retrouver. Donc le premier facteur, c'est celui de l'ancrage génétique. Or, il existe de nombreuses études qui sont dues à des psychologues, à des éthologues ou même des neuropsychologues et d'autres qui confortent cette hypothèse au moins de manière indirecte. Par exemple, les études neurologiques ont établi l'existence de connexions neurales entre les systèmes de traitement de l'information et le centre du plaisir ou du déplaisir dans le cerveau. De même, on commence à comprendre les dynamiques complexes qui permettent l'activation neurogène ou autotélique du traitement de l'information, c'est-à-dire qu'on commence à pouvoir rendre compte de l'activité de l'existence plutôt d'activité d'attention en l'absence de toute urgence pragmatique, ce qui est une chose qui ne va pas de soi si on pense que les activités cognitives ont été sélectionnées par l'évolution. La question de savoir pourquoi il y a des activités cognitives qui sont en quelque sorte exercées sans but pragmatique immédiat pose évidemment un problème. Or, c'est évidemment à une telle activation autotélique, donc finalisée par elle-même, de l'attention cognitive, régulée par son indice de satisfaction, que nous avons affaire dans la conduite esthétique. Il me semble qu'un autre type de faits qui sont intéressants pour cette question de l'ancrage génétique, ce sont les travaux qui nous renseignent sur la préhistoire évolutive de la conduite esthétique. On sait par exemple qu'il existe des espèces animales chez lesquelles les conduites qui correspondent à ce qui chez nous est la conduite esthétique sont le canal central par lequel s'exerce la sélection sexuelle, c'est-à-dire la sélection par les femelles des mâles avec lesquels elles vont s'accoupler. Souvent, les traits sur lesquels portent les choix sont génétiquement fixés, c'est-à-dire qu'ils échappent à toute possibilité d'intervention des individus eux-mêmes. C'est le cas des décorations des mâles, telles la roue du pan, par exemple. Mais dans bien des cas, le choix s'exerce sur ce qui pourrait être une sorte d'activité proto-artistique du mâle lui-même. C'est évidemment le cas des champs d'oiseaux, qui, dans certaines espèces au moins, combinent une base génétique qui livre la compétence du chant avec un processus d'apprentissage qui est responsable de la différenciation des chants à l'intérieur d'une population donnée. Le cas sans doute le plus célèbre et le plus voyant d'une telle combinaison entre une activité proto-artistique et l'attitude esthétique à fonction de sélection sexuelle est celui des oiseaux à berceau qui vivent en Australie et en Nouvelle-Guinée. Comme l'indique leur nom, chez ces oiseaux à berceau, les mâles construisent des sortes d'architecture qui rappellent des berceaux. Il faut préciser que ces berceaux ne seront pas les nids. Les nids sont construits uniquement par les femelles. Donc la fonction des berceaux est uniquement de séduire les femelles. Les femelles vont inspecter ces architectures et elles choisissent le mâle en fonction du degré d'attraction exercé par le berceau construit. Les architectures de ces berceaux sont très variables et certaines populations, par exemple, construisent des sortes de huttes, enfin que nous on considérerait comme des huttes, d'autres des choses qui ressemblent à des tours, des allées bordées de murs ou des enclos. Les couleurs elles aussi varient, de même que certaines des techniques utilisées. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces constructions varient non seulement d'une espèce à l'autre, mais aussi d'une population locale à l'autre. Cela montre que la pratique en question comporte une part d'apprentissage et donc de transmission culturelle, les jeunes apprenant à construire leur berceau à travers ce qu'on appelle couramment un processus d'apprentissage observationnel, donc par une sorte de mimétisme. Ce cas des oiseaux berceaux montre comment, même en dehors de l'espèce humaine, une base génétique commune peut se réaliser de manière différentielle à travers l'intervention de processus d'apprentissage et donc d'une transmission culturelle, fût-elle minimale, comme c'est le cas chez les oiseaux. L'exemple est aussi intéressant parce qu'il confirme l'hypothèse selon laquelle la sélection sexuelle est peut-être un des éléments et un des fondements évolutifs de la conduite esthétique, notamment dans le domaine de l'appréciation esthétique du corps humain, des visages par exemple, ou de la décoration corporelle. Elle peut aussi nous rendre attentifs au fait que si dans l'expérience esthétique, l'activité cognitive est à elle-même sa propre finalité, c'est-à-dire qu'elle se reconduit elle-même, cela n'implique pas nécessairement un désintéressement de la conduite esthétique en tant que conduite globale. Il se pourrait fort bien que la conduite esthétique elle-même soit intéressée, ou pour le dire plus simplement, soit fonctionnelle. Autrement dit, il se pourrait que, par exemple, pour l'espèce humaine, le fait de s'adonner à des activités cognitives régulées par le plaisir soit un fait fonctionnel. Si on tient compte de cette possibilité, cela permet aussi de comprendre que rien ne s'oppose à ce que des moments d'attention esthétique fassent partie d'un contexte dit sérieux, ou dit en tout cas non esthétique. Et notamment, le fait qu'un objet ait une fonction dans un rituel religieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas nécessairement incompatible avec le fait qu'il remplisse en même temps le rôle d'un objet qui peut donner lieu à une attitude esthétique. Il se pourrait même que l'adoption de cette attitude joue un rôle important dans le bon déroulement du rituel. Et ici, nous n'avons pas besoin d'aller chercher loin, il suffit de penser au culte catholique qui montre que dans notre propre tradition culturelle, nous avons élaboré un ensemble de pratiques complexes, de pratiques religieuses complexes, dont une des caractéristiques non négligeables réside dans la façon dont elles ne cessent de se servir de l'attitude esthétique comme élément de renforcement positif. Et une grande partie, évidemment, de l'art religieux ne remplit pas seulement une fonction d'édification religieuse, mais remplit cette fonction à travers sa capacité à émouvoir esthétiquement. Il va de soi que s'il y a une telle base génétique éventuelle de la relation esthétique, elle ne saurait évidemment pas expliquer la diversité ni la richesse des multiples formes culturelles de l'attention esthétique. Ainsi, l'importance plus ou moins grande qui est prise par les conduites esthétiques selon les cultures, selon les époques ou les classes sociales ou les classes d'âge fait intervenir de multiples facteurs causaux dont une partie, en tout cas, me semble devoir interpréter en termes d'analogie évolutive ou de transmission historique. En ce qui concerne les facteurs qui relèvent d'analogie évolutive, je crois qu'on peut dire que d'une manière générale, le développement et la culture, je dirais, des conduites esthétiques est favorisé par un mode de vie où le niveau de stress biologique et social est peu élevé, grâce à une vie en communauté réglée qui ménage des zones de quiétude et de loisirs à ses membres, ou du moins à une partie de ses membres. Ce dernier cas de figure, c'est-à-dire celui d'une stratification sociale polarisée, aboutit parfois à des conduites esthétiques extrêmement sophistiquées et élitistes chez les couches sociales dominantes, dont la contrepartie est parfois, bien que pas nécessairement, le sous-développement des conduites esthétiques chez les autres membres de la communauté condamnés aux tâches de reproduction économique de la société. En tous les cas de cause, lorsqu'on a une société fortement hiérarchisée, il y a aussi toujours une ségrégation esthétique, c'est-à-dire une ségrégation entre grand art et art mineur, par exemple. Cette ségrégation est très forte, elle ne correspond pas nécessairement à une distinction entre pratiques esthétiques complexes d'un côté et pratiques esthétiques simplistes de l'autre. Par exemple, dans la culture noire du sud des États-Unis, la culture du blues est une culture artistique et esthétique très complexe, bien qu'elle ait été exclue de la culture officielle de la majorité blanche. À l'inverse, des sociétés plus égalitaires quant au partage du travail produisent en général des cultures esthétiques plus largement partagées et aussi, c'est sans doute le prix à payer, plus facilement accessibles. Ainsi, le conflit récurrent depuis le 19e siècle entre le grand art et l'art de masse est-il aussi, en partie du moins, un des effets du passage des sociétés européennes et occidentales en général à une structure sociale plus égalitaire que celle qui avait donné naissance à l'art classique. La question du statut, des coïncidences ou des différenciations interculturelles quant au choix des objets qu'on va considérer comme étant esthétiquement prégnants est sans doute encore plus complexe. Là encore, certaines coïncidences relèvent peut-être de facteurs génétiques. Tel est peut-être le cas du fait que l'être humain, semble-t-il, adopte partout une attitude esthétique face au visage des congénères de l'autre sexe. Cette attraction esthétique universelle possède peut-être une double source. D'un côté, les mécanismes d'imprégnation visuelle qui sont activés durant la petite enfance, et de l'autre, la fonction de signal sexuel que les visages des congénères de l'autre sexe acquièrent au moment de la maturation sexuelle. On pourrait ainsi voir dans les mécanismes d'imprégnation visuelle les précurseurs de l'activation de l'attention et dans la fonction du signal sexuel serait quant à elle la source énergétique de l'investissement affectif qui provoque l'appréciation. Bon, c'est une hypothèse, c'est même pas une hypothèse, c'est une spéculation. Le statut de ce qu'on appelle en général la phytophilie, c'est-à-dire l'amour des plantes, est déjà plus incertain. Les éthologues présentent l'amour des plantes, en fait, ils disent amour des plantes, mais ils pensent amour des fleurs, comme un trait universel ancré génétiquement, c'est-à-dire qu'ils analysent l'attraction qu'exercent les fleurs sur nous comme ayant un fondement génétique, puisque cela, d'après eux, se retrouve dans toutes les cultures humaines et ne s'explique pas par la transmission historique. Les recherches anthropologiques ne semblent pas, en tout cas pas toutes, confirmer cette hypothèse. Elles mettent souvent, au contraire, l'accent sur des facteurs externes, par exemple les types d'environnement physique, mais aussi sur des facteurs proprement sociaux. Jack Goody, par exemple, dans La culture des fleurs, a opposé le désintérêt des cultures africaines pour tout ce qui relève de la décoration florale à la passion des fleurs dont font preuve les peuples des îles du Pacifique. Donc c'est un domaine pour, dans lequel la discussion quant à savoir s'il y a une base génétique ou commune ou s'il s'agit de développement culturel indépendant les uns des autres reste encore largement débattue. Les effets des facteurs historiques sur l'expérience esthétique sont évidemment ceux qui sont les mieux étudiés, du moins dans le domaine des usages esthétiques des artefacts artistiques. Par exemple, le fait que durant l'Antiquité et puis de nouveau durant les temps modernes, l'usage esthétique de l'art théâtral ait joué un rôle si central dans la culture occidentale, un rôle central qui contraste singulièrement avec le peu d'importance de cet art dans la culture chinoise classique, par exemple, s'explique sans doute en termes de transmission historique, dans la mesure où la Renaissance s'est inscrite explicitement dans la continuité de l'Antiquité et notamment dans la continuité de la poétique aristotélicienne. Un autre exemple, le fait que la calligraphie occupe une place centrale dans l'art chinois et en même temps dans l'art japonais relève de la même logique évolutive, puisqu'en introduisant l'écriture chinoise, les Japonais ont en même temps repris à leur compte les différents usages sociaux dont la fonction esthétique de cette écriture. Cela dit, les facteurs d'imprégnation historique jouent aussi un rôle dans le domaine traditionnellement dit du beau naturel. En effet, contrairement à ce qu'on dit parfois, le beau naturel n'est pas moins imprégné culturellement que le domaine des arts. Pour en rester dans le domaine extrême-oriental, le fait que la culture japonaise et la culture chinoise partagent en gros le même type de conduite esthétique à l'égard des phénomènes naturels s'explique en grande partie en termes historiques, puisque la culture japonaise a emprunté la vision du monde dans laquelle cette esthétisation trouve une de ses assises principales, à savoir le bouddhisme, à la culture chinoise. Voilà, toutes ces indications étaient très, très cavalières et très partielles. Je voulais simplement dessiner une sorte d'horizon vers lequel devraient se diriger des recherches portant sur les conduites esthétiques. En conclusion, je pense qu'on peut dire qu'en réalité, les conduites esthétiques naissent de la conjonction de multiples facteurs causaux. Et il me semble que l'interprétation naturaliste que j'ai tenté d'esquisser essaie justement de rendre compte de cette multiplicité. Et son avantage essentiel est qu'elle nous permet d'échapper à ce qui, selon moi en tout cas, est une fausse alternative, celle qu'on exprime souvent par l'expression relativité culturelle ou universalité anthropologique. Si on prend au sérieux l'approche naturaliste, la bonne formule serait plutôt universalité biologique et par conséquent relativité culturelle. En effet, dans le cas de ce qui relève du fonctionnement mental, l'universalité biologique, loin de s'opposer à la différenciation culturelle, est sans doute l'unique facteur non mystérieux susceptible de l'expliquer. En effet, le soubassement biologique de la culture est le cerveau humain. Or, la caractéristique biologique sans doute la plus remarquable de la structure du cerveau humain, c'est sa plasticité. Et c'est précisément cette plasticité qui fonde et qui explique la diversification culturelle et interindividuelle des répertoires comportementaux humains. Là encore, c'est dans le domaine des langues que cette plasticité a été mise en évidence, sans doute de la manière la plus nette, mais elle vaut aussi pour bien d'autres répertoires comportementaux, tels l'expression des émotions ou le domaine des règles morales. Mon hypothèse ici a été donc qu'on peut sans doute l'étendre à la conduite esthétique. Il va de soi que l'étude des conduites esthétiques devrait s'adjoindre parallèlement une étude des faits artistiques. Je l'ai parlé ici des faits artistiques de manière incidente parce que je voulais mettre l'accent sur l'irréductibilité de la conduite esthétique. Mais il va de soi que les faits artistiques, eux aussi, constituent une série de faits tout aussi importants, peut-être plus importants même. Et bien sûr, nous n'aurons d'analyse satisfaisante à la fois des conduites esthétiques et des pratiques artistiques que le jour où, au-delà de l'analyse différenciée des deux séries de faits, nous aurons fait des progrès dans la compréhension de leurs liens, divers mais multiples selon les arts, les époques ou les cultures. nous en sommes loin aujourd'hui, je pense. Je voulais simplement essayer de vous convaincre, enfin convaincre est peut-être un mot trop fort, que le peu que nous savons actuellement de la première de ces deux activités, c'est-à-dire de la conduite d'esthétique, parle en faveur de l'hypothèse de son universalité anthropologique et de son ancrage dans la biologie de l'être humain. Peut-être aurais-je aussi réussi à vous transmettre la conviction que la naturalisation de l'esthétique philosophique, loin de dévaloriser le domaine de l'expérience esthétique, nous permet de prendre toute la mesure de la fonction irremplaçable qu'elle a jouée et qu'elle continue à jouer dans le destin de l'humanité, qui est un destin indissolublement biologique et culturel. Je vous remercie beaucoup.
Avant-hier, M. Delumont nous a parlé des représentations artistiques du paradis. Et il nous a dit que il y avait de grandes représentations qui variaient avec les époques et que depuis la Renaissance, la représentation esthétique du paradis a pratiquement disparu et il a interprété cela comme une méfiance des autorités religieuses vis-à-vis de représentations qui étaient trop en rapport avec l'attirance esthétique, justement, avec un plaisir humain. Alors la question est, qu'est-ce que vous pensez de cela ? Est-ce que ça correspond à une espèce de refoulement d'un plaisir qui est universellement partagé ?
Je ne saurais m'expliquer sur les causes historiques qui ont pu jouer, mais je crois que l'attitude de l'Église chrétienne à l'égard des représentations artistiques et plus généralement à l'égard à l'égard de la question du plaisir comme adjuvant éventuel pour transmettre la bonne parole a sans doute toujours été ambivalente, parce que la question qui se pose pour les représentations visuelles, par exemple les représentations visuelles du paradis, se posait aussi déjà beaucoup plus tôt dans un autre domaine qui était le domaine des sermons. Comment est-ce qu'il faut écrire les sermons ? Est-ce qu'il faut les écrire de telle manière à séduire les ouailles ? Et donc notamment, est-ce qu'il faut introduire des fables dedans, des histoires, puisque évidemment les fables et les histoires ont souvent une fonction esthétique, c'est-à-dire fonctionnent à travers le plaisir qu'elles provoquent chez celui qui se représente la situation qui correspond à cette histoire. Et donc je ne sais pas si à partir de la Renaissance il y a eu une victoire du camp puritain qui aurait plutôt accepté que le plaisir, et notamment le plaisir esthétique, puisse jouer un rôle d'adjuvant dans la transmission du message chrétien. Mais il me semble que si on prend en compte, en dehors de la question de la représentation du paradis, d'autres aspects du rituel, du rituel catholique et après aussi du rituel protestant, tout ce qui est lié à la musique, il est quand même difficile de dire qu'il y a eu, à partir de la Renaissance, un refoulement, je dirais, systématique et complet de tout ce qui, dans ce rituel, pouvait fonctionner en activant, entre autres, le plaisir que pouvait ressentir celui qui regardait cette représentation ou qui écoutait cette musique, ou aussi le plaisir de celui qui l'interprétait, bien entendu, qui pose un autre problème et qui est aussi un plaisir. Donc, ma réponse, mais c'est vraiment une réponse de non-spécialiste, c'est que sans doute, plutôt que de parler d'une coupure et d'un refoulement complet de ce qui relève du plaisir humain, il faut envisager cela comme ayant été l'enjeu d'un débat à l'intérieur des églises chrétiennes. Peut-être que ce débat continue encore aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si c'est une réponse ou si c'était une réponse de Normand ou si c'est... ou si c'est bon.
Oui, bonsoir, merci pour votre conférence. Je voulais aborder, que vous abordiez quelques questions, par exemple sur l'esthétique chez les anciens. Vous pouvez nous en dire quelque chose chez Platon, c'est-à-dire en fait le beau, le bien, et ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les conditions de la réflexion qui ont fait émerger cette idée de philosophie esthétique, et en autre mot, où va l'esthétique ou disons la philosophie esthétique aujourd'hui. Mais c'était voilà quelques interrogations que j'avais. Merci.
Alors sur la pensée esthétique des anciens, je suis complètement incompétent, donc je me vois mal vous répondre à cette question, d'autant plus que si on l'aborde à travers les textes philosophiques, en fait, il faudrait exposer la philosophie platonicienne ou la philosophie aristotélicienne, puisque en réalité, leur théorie du beau est intrinsèquement liée à leur ontologie et donc à leur théorie générale de l'être, ce qui n'est évidemment pas le cas de la perspective dans laquelle j'ai abordé les questions esthétiques aujourd'hui. Mais il me semble que quant aux expériences ou quant aux activités auxquelles ils se réfèrent, eh bien, ce sont quand même le même type d'activités et d'expériences que celles que nous-mêmes nous considérons aujourd'hui comme étant des activités esthétiques. Donc je crois qu'au-delà de la question de savoir quelle était la fonction philosophique des faits esthétiques chez Platon ou chez Aristote ou chez d'autres, on peut essayer de comprendre en quel sens les hommes de l'Antiquité, tout autant que les hommes modernes ou ceux d'autres cultures, se sont adonnés à un même type de conduite, même si ce type de conduite a donné lieu à des théories très différentes. D'ailleurs, les théories chinoises ou japonaises qui sont liées à l'expérience esthétique n'ont strictement rien à voir avec nos propres théories, ne sont pas des théories du beau au sens de la philosophie occidentale. Pourtant, c'est des théories qui parlent des mêmes faits humains. Et ce qui m'intéressait ce soir, c'était les faits humains. La deuxième question, alors où va l'esthétique philosophique aujourd'hui? Ben, je ne sais pas très bien. Je sais à peine où moi je vais. Alors, savoir où va l'esthétique. Je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas une esthétique philosophique, mais il y en a plusieurs. Et c'est d'ailleurs une bonne chose. Je crois qu'il ne faudrait pas. Ce que j'ai proposé là, c'est une orientation de la philosophie esthétique. Il ne faudrait surtout pas croire que je pense que cette orientation-là devrait remplacer tous les autres. Simplement, c'est celle dans laquelle moi j'arrive à comprendre quelque chose. Mais je pense que les orientations, notamment celles liées à la phénoménologie ou à d'autres directions de l'esthétique, par exemple l'esthétique analytique anglo-américaine, vont continuer à se développer.
Monsieur, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que veut dire en fait adieu à l'esthétique,
oui,
d'après vous?
Oui, c'était le titre du livre. Ça voulait dire deux choses. Ça voulait dire d'abord une chose personnelle, c'est-à-dire un adieu que moi je faisais à une certaine manière dont moi-même j'avais traité les problèmes esthétiques et artistiques, c'est-à-dire essentiellement à travers une lecture des textes philosophiques. Donc une réflexion sur l'esthétique qui était en même temps une réflexion sur les textes philosophiques. Donc c'était un adieu en ce sens-là où je voulais dire qu'à partir de cet instant-là, ce qui m'intéressait, c'était plutôt de me confronter directement aux faits esthétiques et aux faits artistiques et de mettre un peu à l'arrière-plan, les problèmes plus spécifiques liés à la réflexion philosophique. La deuxième raison, plus avouable parce que moins personnelle, c'était que c'était un adieu à une certaine conception de l'art et de l'expérience esthétique. En gros, à la conception qui est née à l'époque romantique, selon laquelle l'œuvre d'art avait pour fonction de nous donner un accès à une plénitude humaine que nos autres activités sociales ou même cognitives nous interdisaient désormais. Bon, pour moi, cette fonction accordée à l'art était liée, historiquement, me semble-t-il, à la crise de la religion en Occident et à travers l'analyse des textes de Kant et puis des textes des romantiques ou d'Hegel, j'avais cru comprendre que pour ces gens-là, l'art commençait à prendre la place qui avait été celle de la religion révélée et aussi celle de ce qu'on appelait alors la philosophie dogmatique, puisque désormais la philosophie ne pouvait plus dire le fin mot sur la structure de l'être, puisque la religion ne s'imposait plus comme un cadre accepté par tout le monde, eh bien c'était à l'art de prendre la relève. Bon. Et l'adieu à l'esthétique, ça voulait être un adieu à cette manière-là de comprendre l'art. Parce qu'il m'avait semblé qu'après l'avoir étudié dans une perspective historique, il n'y avait pas de raison pour que je continue à répéter toujours les mêmes choses, mais qu'on pouvait aller ailleurs, d'autant plus que le simple fait que j'ai pu écrire des choses de ce type-là signifiait sans doute que cette conception de l'art était en train de disparaître. Parce qu'évidemment, je ne suis pas plus intelligent que n'importe qui d'autre, et donc si cette idée m'est venue à moi, c'est qu'elle a dû venir à beaucoup d'autres gens au même moment, et si elle a pu venir à beaucoup de gens au même moment, ça voulait dire que ces idées étaient en train, en fait, de perdre de leur force sur les esprits. Et il me semblait qu'il y avait de la place, alors pour une compréhension des activités artistiques et des expériences esthétiques qui rendent compte de leur importance pour la vie humaine, mais qui prennent en compte la diversité des fonctions que les œuvres et les conduites esthétiques remplissent selon les individus et selon toutes les diversités humaines. Donc il n'y avait pas de raison de réduire en fait ce qui était une richesse fonctionnelle très très grande à un seul type de fonction. C'était cela l'adieu à l'esthétique. Voilà.
Bien, merci.
Merci à vous.